C'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûr de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Salut à tous et à toutes, on se retrouve en ce beau dimanche 7 mars sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM pour parler bouquins. Ici ça parle littérature et esthétique, ça parle narrateur, narratrice, personnage et métaphore. Oui, mais ça parle aussi parfois de choses plus terrestres, quoique non moins poétiques. Entre Madame Bovary de Flaubert et La cloche de verre de Sylvia Plath, je vous avais par exemple emmené déjà une fois avec moi à New York visiter le Village de Suzanne Rotolo lors de notre exploration de ses mémoires. Vous vous rappelez, c'était un livre qui s'appelait A Freewheeling Time. On y avait rencontré des musiciens et des musiciennes en quête d'autre chose que ce que la société de l'époque leur offrait. Cet ouvrage de non-fiction, comme disent les copains anglophones, n'était pas le seul dans sa catégorie. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous invitais dans le dernier épisode à fouler avec moi les sols en terre battue et en gazon des plus grands courts de tennis du monde. Je vous invitais à entrer dans l'univers fascinant de ce sport, sport que j'affectionne particulièrement personnellement depuis ma tendre enfance. J'ai grandi en regardant, comme nombre d'entre vous, j'en suis sûre, Roland-Garros, le grand chelem qui se joue tous les étés à Paris. Je n'ai pas, ou plus, honte de le dire, je suis tombée amoureuse de Roger Federer avant même d'avoir l'âge de comprendre ce que c'était l'amour, et je le suis encore un petit peu aujourd'hui. Oui, alors oui, j'ai complètement raté mon bac d'histoire géo parce que les révisions tombaient pendant la quinzaine des matchs, et l'an dernier, j'ai eu le toupet de laisser la télévision allumée jusqu'à la fin d'un match qui durait plus longtemps que prévu, alors que mes potes étaient chez moi pour l'apéro. Bref, le tennis, j'aime bien ça. Et ce qu'il y a de bien avec la radio, c'est qu'on peut s'en servir pour partager ses grands amours et peut-être en déclencher un ou deux chez les autres. Les autres, c'est vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et tandis que vous embarquez sur les coups de 19h en cette fin de journée dominicale, eh bien, j'espère que j'arriverai à déclencher dans vos petits cœurs un élan pour ce sport. Sport qui est aussi un art, un reflet des changements sociaux des époques qu'il traverse et parfois un moteur. Pour citer Mary Carrillo, une ancienne joueuse de tennis devenue commentatrice, elle est américaine, parmi les choses qui n'ont pas d'importance, eh bien elle dit « le sport est la plus importante ». Je suis bien de son avis. En ce second épisode dédié au tennis, je continue de vous parler d'un livre, car oui, il s'agit tout de même d'un livre, je ne perds pas de vue que l'émission s'appelle « Secret livré », un petit jeu de mots que j'ai moi-même élaboré et que je trouve maintenant un peu prétentieux, mais passons. Ce livre donc, c'est, souvenez-vous, je vous en parlais déjà la fois dernière, « Strokes of Genius », livre écrit et publié en 2009 par le journaliste et auteur John Wertheim. Paru donc en 2009, l'ouvrage, dont le format oscille entre très longs commentaires sportifs du match, et biographie très informée des deux joueurs, eh bien ce livre a pour sous-titre « Federer, Nadal and the greatest match ever played ». Vous l'aurez compris, même si votre anglais plafonne au A1, « Federer, Nadal » ou « Le plus grand match jamais disputé ». La dernière fois, j'abandonnais les ondes sur ces mots, je vais me répéter ici. Pour Federer, il est clair que la défaite écrasante de Paris quelques semaines avant Wimbledon 2008 le hante encore lorsqu'il pose le pied sur le court britannique pour la première fois. Alors, si vous n'avez pas suivi déjà, c'est mal, vous devriez être pendu à votre transistor dès que Secret livré est à l'antenne, mais ensuite, eh bien, je n'ai pas le cœur à vous exclure de la conversation, alors je vais résumer un petit peu, si vous nous rattrapez en route. Le match en question, donc, le match dont il est question aujourd'hui, est un match tout à fait historique. De très très nombreux matchs de tennis sont joués tous les ans, à la fois sur le circuit masculin et le circuit féminin. Certains d'entre eux sont intéressants à regarder, ils sont en minorité, il faut l'admettre. Afin de garder leur classement mondial, les joueurs et les joueuses jouent globalement toute l'année, hormis une petite pause après le dernier grand chelem du calendrier, Wimbledon, qui se joue en Angleterre. Les grands chelems, c'est les méga tournois du circuit. Ils sont au nombre de 4. Il y en a un aux États-Unis, l'US Open, un en Australie, l'Australian Open, un en France, c'est notre petit chéri, Roland Garros, et puis il y a celui qui se déroule sur le gazon londonien, et c'est Wimbledon. Leur histoire en elle-même est assez intéressante, on y reviendra peut-être. Bon, et donc pour garder leur classement, eh bien les joueurs doivent accumuler des points. Ces points-là, on les récolte lors de tournois qui rapportent plus ou moins de points, c'est logique. Plus on est classé, plus on peut se dispenser de jouer les plus petits tournois qui rapportent par exemple 250 points. On peut jouer surtout les Masters 1000 par exemple qui en rapportent eh bien 1000 points, vous l'aurez deviné. Par exemple, bon, mais ça fait quand même beaucoup de matchs. Les professionnels du tennis passent en fait leur vie dans les avions, un désavantage qui vient avec le métier, dont beaucoup se plaignent bien sûr, même si celles et ceux qui font cela réalisent bien leur chance d'être là où ils sont. L'ancien joueur de tennis américain John McEnroe, par exemple, rentré dans l'histoire grâce à sa carrière spectaculaire, mais aussi et peut-être surtout sa rivalité avec Björn Borg, en parle dans son autobiographie. Il se rappelle la frénésie des vols incessants, les chambres d'hôtel à répétition, les réveils toujours un peu désorientés. Quelle ville aujourd'hui ? Ah oui, ok, au boulot. Très similaire finalement. Très similaire aux tournées entreprises par les pop stars, passez-moi l'appellation un peu boomer, vous voyez ce que je veux dire, des paquets de chansons ont été inspirés par cette vie en suspens dans laquelle les halls neutres et beiges des hôtels deviennent au fond plus familiers que sa propre maison. Et d'ailleurs, le groupe anglais Wolf Alice a par exemple écrit une chanson qui s'appelle, de façon assez peu ambiguë, Sky Musings, traduit littéralement par des pensées en vol. On a une heure ensemble, alors on peut tout se permettre. On écoute tout de suite la chanson Sky Musings de Wolf Alice qui, vous allez le voir, prend pour objet une personne dans un avion qui se demande bien ce qu'elle fait là.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Chanson que j'adore donc, groupe que j'adore au passage, je vous ai prévenu aujourd'hui, je prends le message au pied de la lettre et la radio, eh bien, je l'utilise pour partager mes grands amours. Mais revenons donc à nos moutons. Les joueurs et les joueuses de tennis professionnels jouent donc beaucoup de matchs. Parmi ceux-ci, certains sont plus intéressants que d'autres. C'est la même chose dans tous les sports. Un match entre deux joueuses classées dans le top 5 mondial qui se sont affrontées par le passé et ont un score final de 10 victoires à 10 sera plus regardé qu'un match entre deux joueurs classés 156 et 230 mondiaux qui ne se sont jamais rencontrés. On est d'accord là-dessus. Alors parmi les matchs intéressants, on a ensuite les matchs très intéressants. La catégorie au-dessus. Exemple simple, Serena Williams joue en grand chelem au troisième tour contre une joueuse classée 70e mais qui a battu récemment une top 10 au second tour. Serena Williams est favorite, comme elle l'est si souvent, mais son adversaire semble traverser une phase d'invincibilité, comme le font parfois les athlètes. Aurait-elle trouvé la façon de dévisser les superstars du game? Aurait-elle compris quelque chose en plus? Serait-elle immortelle? Tant de questions qui planent donc sur un match qui sera, vous l'aurez compris, donc très intéressant. Il y a d'autres exemples, je vous passe mes 1000 petits scénarii. Et puis il y a les matchs historiques. Alors ça, c'est la catégorie carrément au-dessus. Un exemple récent, le joueur serbe Novak Djokovic, classé numéro 1 mondial, vient juste de disputer la finale de l'Open d'Australie. Vous savez, un de ses quatre grands chelems qui se déroule donc en Australie, à Melbourne, tous les ans en janvier. Cette année, à cause de l'épidémie du coronavirus, il a été déplacé en février, mais peu importe, c'est le résultat qui compte. Comme chaque année, il présentait aux spectateurs son petit lot d'histoires à vivre. Celle qui nous intéresse ici est celle de Djokovic, donc. Le Serbe, arrivé à Melbourne en février 2021, arrive avec 8 titres de l'Open d'Australie déjà en poche. Entre 2008 et 2020, il faut noter qu'il n'a laissé la coupe dans d'autres mains que les siennes que 4 fois. Un exploit, il est donc favori. Mais face à lui, en finale, se trouve le Russe, jeune, Daniil Medvedev, classé numéro 3 mondial, qui, avec un style de tennis un peu déconcertant, parvient malgré tout à battre tout le monde. Dans une interview donnée récemment, il commente lui-même sur ses mouvements peu orthodoxes et affirme, je cite, « Parfois je me vois en vidéo ou je me vois en photo et je me dis « mais qu'est-ce que je suis en train de fabriquer ?» Et d'ailleurs, il n'a pas tort, la radio c'est sympa pour partager, mais très peu pour le visuel. Alors n'hésitez pas à aller regarder une vidéo YouTube genre « Top 10 des gestuels étranges » de Medvedev, vous allez voir, ça vaut le détour. Enfin, bon, le Russe arrive sur le terrain avec l'envie de déboulonner le Serbe de son trône australien. Jusque-là, rien que de très normal. Oui, mais si le Russe l'emporte, c'est son premier grand chelem. Un premier titre hautement convoité, car il incarne une sorte de porte d'entrée dans le monde des grands du tennis. Justifié ou non, l'enthousiasme autour des chelems est immense. Ce sont les tournois aux droits de diffusion les plus chers, aux stands les plus grands, aux prix les plus élevés. Ils sont au cœur des discussions, ils sont sur toutes les lèvres. Au final, il faut l'admettre, à carrières égales, c'est le nombre de titres du grand chelem, en simple, pas en double, qui décidera lequel de deux adversaires était le meilleur, le plus grand, qui a marqué le jeu plus que l'autre. C'est comme ça. Et depuis quelques années, un trio de joueurs se dispute le plus grand nombre de ces titres, une véritable course à l'échalote, qui met en scène l'Espagnol Rafael Nadal, le Suisse Roger Federer, mon amoureux, vous vous souvenez, et le Serbe Novak Djokovic. Surnommés The Big Three, les trois grands, ces joueurs raflent toutes les mises. Ils ont à eux trois un total de 58 chelems. Voilà, je ne sais pas si vous suivez d'autres sports, mais c'est l'équivalent d'avoir gagné 10 Coupes du Monde au football, par exemple. Un chiffre encore plus impressionnant si on prend en compte la longévité de ces joueurs, Federer approchant par exemple des 40 ans. Dans cette course, lui et Nadal sont en tête, ex aequo, avec 20 titres du Grand Chelem. Novak, un peu plus jeune qu'eux, faut le noter, en est à 17 lorsqu'il pénètre dans l'arène australienne pour y disputer sa finale, le dimanche 21 février 2021. S'il remporte le match, lui se rapproche de ses compères. Sinon, l'écart continue de se creuser, car une opportunité de Chelem ne se présente pas tous les 4 matins, et Nadal est encore favori pour Roland-Garros qui se dispute en juin. Il se pourrait donc que l'Espagnol sorte avec 21 titres et Novak, 17. S'il remporte le match, en revanche, il atteint un nouveau record. Si Novak Djokovic gagne la partie contre Daniil Medvedev, il remporte son 18e titre et il atteint un total de 310 semaines passées avec un classement de numéro 1 mondial. Ce record est jusqu'alors tenu par Federer, avec 34 semaines d'avance sur le second, Pete Sampras. Autre légende du tennis, Pete Sampras est en fait à la retraite depuis bien des années et n'a donc plus vraiment l'ambition de dépasser son rival suisse. Inversement, c'est exactement le projet du Serbe. Je vous la fais courte, après 3 sets à peine accrochés, Djokovic ressort vainqueur de la rencontre. Il a en sa poche 18 grands chelems, dont 9 Open d'Australie. Il égale officiellement le record de Federer, Vous l'avez compris, c'est un match historique.
Secret livré.
Le match historique dont il est question ici est le suivant. Il s'agit de la finale du tournoi de Wimbledon 2008. Elle se dispute en juillet. Les deux finalistes sont donc, bien sûr, Rafael Nadal, l'Espagnol, et en face de lui, de l'autre côté du filet, Roger Federer, le Suisse. Dans le premier épisode, je vous racontais comment les deux joueurs avaient évolué sur le circuit, un peu comme en parallèle. Federer atteignant les sommets grâce à un talent inné que personne ne lui dispute et, sans doute, ne lui disputera jamais, et un travail immense pour apprendre à maîtriser ses gestes, pour apprendre à convertir ses accès de génie en coup gagnant, apprendre à faire du diamant brut qu'était son jeu une machine à remporter les matchs. Nadal, de son côté, gravissant les échelons qui le mènent au Grand Suisse, gagnant Roland-Garros lors de sa première participation au Chelem, impressionnant le monde entier par son jeu, mais aussi et surtout par son mental. Encore aujourd'hui, 16 ans après cette victoire initiale à Roland-Garros, les spécialistes du sport, comme les fans, s'accordent sur une chose, Nadal n'abandonne jamais. Lorsque les deux hommes entrent sur le court central de Wimbledon le jour du match, le contraste entre les deux silhouettes ne pouvait être plus marqué. Dans son livre, Wertheim raconte une anecdote assez amusante. À Wimbledon, il est d'usage que les joueurs et les joueuses disputant la finale ne portent pas eux-mêmes leurs sacs. Leurs raquettes, leurs bouteilles d'eau et autres barres de céréales sont donc transportées par des sortes de laquais d'appoint qui laissent les stars du jour pénétrer dans l'arène sans le fardeau d'un immense sac Wilson ou Babola. Cela a pour effet cependant de forcer les joueurs et les joueuses à marcher les quelques mètres qui séparent l'entrée du court de leur chaise, les bras ballants. Car si les fins de match sont marquées par des effusions en direction de la foule, les entames de partie sont souvent caractérisées par une certaine retenue, une certaine pudeur. Le but, c'est de rester « in the zone », dans la zone. Un bref signe de la main, c'est tout. Les bras sont donc ballants le long du corps. Ça donne des silhouettes parfois un peu ridicules. Mais ce jour-là, un homme refuse le protocole. Rafael Nadal, le Mallorquin de 22 ans, refuse de lâcher son sac. Cela veut dire l'une ou l'autre de deux choses. Soit Nadal, avec son éducation centrée sur la modestie, le fameux sermon « tu n'es pas spécial parce que tu tapes bien dans la balle » répété par son oncle toute sa vie, soit Nadal trouve cela inconfortable de se faire servir. Ou bien il est si tendu qu'il préfère se donner une contenance en transportant lui-même ses affaires, comme un musicien sur scène qui se sentirait tout nu sans son instrument, les bras lui aussi ballants le long du pied du micro. Wertheim souligne également les deux styles vestimentaires des joueurs. Federer, qui a, lui, accepté que l'on porte ses raquettes, arrive en pantalon de lin blanc avec un petit cardigan blanc lui aussi, qui porte l'insigne de Wimbledon. Le quintuple tenant du titre, autrement dit, arrive sur le terrain comme un roi, régent incontesté du gazon anglais. Par contraste, Nadal est en pantacourt, l'affreuse phase pantacourt de Nadal, un véritable désastre vestimentaire pour tous les fans, RIP, avec en haut, un t-shirt sans manches qui révèle des biceps surdéveloppés, surtout le gauche, son bras dominant. Wimbledon est le seul grand chelem qui impose un code vestimentaire aux joueurs, et pourtant, c'est là l'ironie du sort, même lié par ce respect de la tenue blanche requise par le tournoi, Federer et Nadal sont d'apparence aussi différents qu'on puisse l'être. Une fois les joueurs réunis avec leur sac, la partie peut commencer.
Get it on with me. Oh, oh, oh.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Dans la cabine de commentaires américain, on entend la voix de John McEnroe. Le clerc favori, affirme-t-il, c'est Federer. Être dans la zone, au tennis et dans le sport en général, c'est se sentir invincible. Quand les années d'efforts et de répétitions cliquent enfin, quand tous les coups rentrent dans le terrain, quand les prises de risque payent et que la confiance est à son maximum, qu'on a l'impression tout simplement de ne pas pouvoir rater. Et McEnroe affirme alors de Federer, eh bien ça fait 5 ans qu'il est dans la zone à Wimbledon. La messe est dite, il est l'homme à abattre. Le match commence cependant sur un break d'entrée. Au tennis, en fait ça veut dire que la personne qui sert perd sa mise en jeu. Un des principes du système de points au tennis, c'est que si on perd sa mise en jeu, on est automatiquement en danger.
Car protéger son service, c'est-à-dire gagner les jeux dans lesquels on sert, permet d'arriver, même si l'on ne break pas l'adversaire, à un score égal en fin de set, et de se séparer par un tie-break, une sorte de mini-partie au sein même du set, qui départage les ex-échos. Bon, ça c'est en gros. Un break d'entrée, en gros, eh bien, c'est un message fort. Et celui-là, il est au profit de Nadal. Souvenez-vous, Federer a beau être le roi de Wimbledon depuis 5 ans, l'étau se resserre vis-à-vis du jeune Espagnol. Lui, qui l'a battu quelques semaines plus tôt à Roland-Garros, lui infligeant une défaite cuisante qui a rendu Federer pratiquement rouge de honte, eh bien cet adversaire de taille se rapproche tous les ans un peu plus du Suisse. La dernière barrière, la plus symbolique de toutes, c'est Wimbledon. La muraille psychologique de Federer est déjà effritée, et ce break d'entrée n'annonce rien qui vaille. Le premier set est remporté par Nadal sur un filet de Federer. Sur un revers long de ligne, c'est-à-dire tout droit, et non pas en diagonale dans le court, le Suisse plante la balle dans le filet, elle vient s'écraser tristement au sol, sonnant la fin de cette première manche. Elle est donc en faveur de l'Espagnol, du second, du challenger. Pour rappel, il faut en gagner 3 chez les hommes pour remporter la partie. Le deuxième set, eh bien, n'est guère différent. Nadal l'emporte aussi. Le score est désormais à 6-4-6-4 pour l'Espagnol, qui n'a plus qu'un set à parcourir pour gagner le match. Dans la cabine des commentateurs, le ton a bien changé. Les affirmations ont laissé place à des questions un peu sans réponse. Martina Navratilova, ancienne joueuse légendaire du tournoi féminin, revient sur la grande interrogation qui plane alors dans tous les esprits. Federer avait passé 5 ans sans vrai rival, affirme-t-elle. Même en jouant son tennis de croisière, il gagnait à chaque fois. Ce n'est pas vraiment dur au fond. Tout à coup, il est à 2-7-0 contre lui. Ça ne lui était jamais arrivé à Wimbledon, il n'avait jamais eu à se battre pour remonter 3 sets d'affilée. À la fin de ce second set, McEnroe commente live à la télévision « Ce que vous voyez là, c'est un grand homme à court d'idées. » Et en effet, Federer est tout simplement en train de perdre le match. Un an auparavant, les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés, en finale, du même tournoi, mais l'édition 2007 avait couronné le Suisse. Nadal était inconsolable. Il avait l'impression, alors, d'avoir gâché son unique chance de gagner le tournoi de Wimbledon, ce tournoi qu'il rêvait de gagner depuis sa plus tendre enfance. Interviewé à l'âge de 12 ans à la télévision espagnole d'ailleurs, le petit Nadal, les joues encore rondes, mesurant pas plus d'1m50, répond à la question fatidique, et peut-être un peu prématurée si on y pense bien, « Quel tournoi aimerais-tu gagner le plus au monde ?» Il ne faut pas attendre une seconde pour entendre sa petite voix affirmer avec un accent espagnol « Wimbledon !» Eh bien ce 6 juillet 2008, le rêve de gosse est à un set de se réaliser. Federer dira plus tard « Quand j'y repense maintenant, j'ai joué les deux premiers sets, sans vraiment croire que je pouvais gagner le match. J'étais là et j'étais pas là. Mon problème, c'est que j'avais perdu un mois avant contre Rafa d'une façon horrible à Roland. » Reste donc à disputer soit 1, soit 2, soit 3 sets pour connaître l'issue de la finale. Le troisième set, lui, est remporté par Federer. Il est décidé au tie-break, c'est-à-dire qu'il est très serré. Quatrième set, même chose. Pire, Nadal a une balle de match à 8-7. Dans le tie-break, il faut 2 points d'écart pour gagner le set. Federer envoie le revers long de ligne, cette fois réussi, et égalise pour arriver à 8 points partout. Puis, il reprend l'avantage 9-8, puis 10-8. Federer a égalisé 2-7 partout. Nadal raconte « C'était le pire moment que j'ai jamais vécu sur un court de tennis. » Alors, Nadal fait partie de ces joueurs qui ne se laissent jamais croire que la partie est gagnée. Il ne se laisse d'ailleurs jamais croire qu'elle est perdue non plus. Ce sont les deux revers de la même médaille. Tant qu'il est sur le court, il est en possession de son destin. Crier victoire trop vite, c'est s'infliger une déception. Or, ce jour-là, à 8-7, Nadal s'est autorisé, pour la première et sans doute la dernière fois de sa carrière, à anticiper. Il s'est vu avec la coupe, il a vu son nom gravé sur sa paroi. Le fait que Federer lui ait volé ce moment est donc, on peut le comprendre, incroyablement difficile dans l'esprit du Mallorquin. De surcroît, il menait 2-7 à 0 jusqu'à ce que Federer se réveille et égalise. Tout est à refaire, la tension est à nouveau côté espagnol. Inutile de dire qu'à ce moment-là du match, la foule est extatique. On n'a pas vu pareil match depuis la finale de Wimbledon entre Borg et McEnroe. Le tie-break, à l'image du tie-break légendaire, littéralement, de cette finale-là, a déjà sa place dans les livres d'histoire alors que le match n'est même pas terminé. À noter, le climat reflète l'intensité du match pendant la rencontre. La partie, qui commence sous le soleil, est interrompue une première fois pour pluie, quand le score vire violemment en faveur de l'Espagnol au grand dam de Federer. Wertheim, l'écrivain dont je parle vaguement aujourd'hui, dans son livre, eh bien, dresse un parallèle très lyrique entre le ciel et le regard du Suisse qui s'assombrissent tous les deux en même temps. De quoi satisfaire les fans de littérature qui se demandent bien pourquoi je les gonfle avec du tennis depuis une heure. Donc après 3h56 de jeu, pendant le cinquième set, il se remet à pleuvoir. Les interruptions au tennis ont tendance à briser les dynamiques. Cela paraît logique, un joueur en pleine cavalcade vers la victoire, ayant parvenu à trouver l'équilibre subtil entre concentration et décontraction, se retrouve tout à coup sous la pluie à attendre que la pluie cesse, en proie à des doutes et à des angoisses inépuisables qui tournent en boucle dans sa petite caboche. Patatras. C'est d'ailleurs une technique assez répandue, bien que très mal vue, de prendre des pauses toilettes au moment du set où le score commence à glisser un peu trop vite en sa défaveur. Les joueurs et les joueuses le font tous et toutes plus ou moins, mais bon, ça reste perçu comme une forme un peu passive de tricherie. Alors, au moment du match dont je vous parle, les deux joueurs sont bien trop concentrés pour utiliser la fameuse stratégie pipi, mais la pluie s'en charge donc pour eux. Ils retournent au vestiaire, la bâche est tirée sur le gazon. L'arbitre, sans descendre de sa chaise haute, se retrouve poussé tout en haut de sa structure par des employés de Wimbledon qui font rouler son perchoir comme une très grande chaise haute de bébé pour le mettre à l'abri. Une image d'ailleurs qui vaut le détour si vous voulez aller jeter un œil à YouTube. Tony Nadal, oncle de Nadal donc, oncle Tony comme on l'appelle entre fans, va voir son neveu dans les vestiaires. Il raconte, je cite, « J'étais certain que j'allais retrouver mon neveu dans tous ses états. Il avait une balle de match, il était passé à ça d'une victoire. Je me répétais dans ma tête ce que je pouvais lui dire pour le rasséréner. » Mais contre toute attente, ce n'est pas un Rafael Nadal dépité qu'il trouve au vestiaire. Le jeune homme est étonnamment calme, déterminé. Il affirme, en espagnol, « Federer podía ganarme la finale, pero yo no iba a perder la finale. » Voilà, de rien pour ce moment. Je tenais à vous le dire en espagnol, dans mon espagnol pas très natif, parce que on perd un peu dans la traduction quelque chose de fort et d'important qui est présent en espagnol. Il dit, vous l'aurez sans doute compris, Federer pouvait remporter la finale, mais moi je n'allais pas perdre la finale. En gros, ce qu'il dit, bien, c'est ça. Federer allait devoir se battre comme un lion pour me tirer une victoire que je n'allais certainement pas lui offrir. Il pouvait gagner, lui, ok, mais moi je n'allais pas perdre. Deux choses différentes. On n'en attendait d'ailleurs rien de moins du joueur le plus déterminé que le tennis ait jamais connu. Federer, lui, eh bien, retrouve sa femme, Mirka, qui l'encourage. Il a repris ses esprits, il est chez lui après tout, il sait s'y prendre sur le gazon, il l'a fait 5 fois déjà auparavant. Il se battra donc jusqu'au dernier souffle. Quand la pluie cesse, c'est d'ailleurs ce qui se produit. Au milieu d'une atmosphère inégalée, les deux joueurs se livrent le dernier combat qui décidera de leur sort respectif. Le score est serré et on arrive à 6 partout dans le cinquième set. Règle spécifique de Wimbledon, pas de tie-break dans le dernier set. Alors, on continue de jouer, des jeux normaux, jusqu'à obtenir 2 jeux de différence. Depuis, bon, cette règle a changé. À l'époque, elle allonge un peu le match qui se déroule à présent dans une pénombre de plus en plus profonde. À ce stade de la partie, les deux joueurs commencent à s'inquiéter du silence, en silence de l'obscurité grandissante. Ils jettent tous les deux des coups d'œil à Pascal Maria, qui est l'arbitre de chaise qui officie ce jour-là. Lui, d'ailleurs, raconte dans le livre de Wertheim, « J'ai commencé à remarquer qu'entre les points, ils me regardaient tous les deux. Je crois qu'ils voulaient me signifier qu'on était tous les trois dans le même bateau. Je crois qu'ils avaient conscience de l'ampleur de ce qui était en train de se dérouler, et ils voulaient, en un sens, que je sois de leur côté, qu'on se comprenne. » La partie n'est pas interrompue, donc. L'eût-elle été, le match aurait peut-être fini différemment. Mais cela n'est pas à nous de spéculer. Comme dirait Gandalf à Frodon avec toute sa sagesse, tout ce que nous pouvons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Et le temps qui nous est imparti, eh bien, a duré presque 1 heure maintenant. Si vous avez tenu jusqu'à maintenant, j'imagine que vous n'attendez qu'une chose, le résultat. Qui a gagné le duel au sommet ? Eh bien, après 4h48 de jeu, pas moins, le cinquième set et la partie sont remportés par Nadal, qui a gagné Wimbledon. Le jeune homme s'écroule sur le gazon de tout son long, tandis que dans les gradins, la foule fait l'exact opposé. Une vague d'hommes et de femmes se lève, poings levés, applaudissant, hurlant, autant pour célébrer la victoire de l'Espagnol que pour expulser la tension accumulée sur près de 5 heures de match. Le Suisse, de son côté, est vaincu. Il s'assoit sur sa chaise, il remet son petit cardigan, un cardigan d'ailleurs, ironiquement, créé spécialement pour l'occasion, une édition limitée censée célébrer la quintuple victoire de Federer à Wimbledon. Il accepte dignement l'assiette du second et tente de contenir les émotions du perdant. Il sait qu'il vient de trouver en Nadal un rival à son niveau. Enfin. Il n'en est pas particulièrement ravi d'ailleurs. Il affirme, des années plus tard, « J'ai mis du temps à m'habituer à l'idée d'une rivalité. Je ne voulais pas de rival. » Une fois la pilule de Wimbledon 2008 douloureusement digérée, il accepte toutefois la réalité. Et la réalité est la suivante, il est un meilleur joueur depuis que Nadal est là. Ils se tirent mutuellement vers le haut. C'est le cas de toutes les rivalités d'ailleurs, Martina Navratilova et Chris Evert, les stars du jeu féminin avant l'ère des sœurs Williams, se sont rencontrés un nombre incalculable de fois et ont continué à jouer à leur meilleur niveau, tout simplement pour battre l'autre. McEnroe était un insupportable petit roquet avec tous les joueurs du circuit, tous sauf un, Borg. Quand Bjorn Borg était de l'autre côté du filet, McEnroe se taisait. McEnroe se concentrait sur son jeu. Et les deux nous ont offert un des plus grands matchs que le tennis ait jamais connu. Ce sont ces deux hommes qui ont disputé, en effet, des années avant le match légendaire Federer-Nadal, la finale la plus populaire que le tournoi masculin ait pu porter sur le gazon anglais. Leur dynamique était la même, Borg était l'homme à abattre, McEnroe la nouvelle force. Mais McEnroe a été privé, lui, d'une rivalité qui s'annonçait pourtant extraordinaire. Borg prend sa retraite à 25 ans, juste après sa première défaite contre McEnroe à Wimbledon, l'année d'après. Au lieu de s'en réjouir, McEnroe s'écroule. Que deviendra-t-il sans celui qui lui donnait la rage de se battre? Son meilleur ennemi, comme le chantaient les L5. Federer et Nadal, eux, pour le meilleur et pour le pire, se sont partagés le tableau masculin depuis cette fameuse finale de 2008, depuis cette entrée de Nadal chez les grands définitivement. Et ils s'en portent tous les deux mieux que s'ils avaient fait cavalier seul. Alors pour finir, une superbe anecdote qui personnellement m'émeut à chaque fois, à l'Open d'Australie de 2017, plus récemment donc, les deux hommes se rencontrent en finale à nouveau. Ce n'est pas rare pour ces deux-là, sauf que ce qui est rare, c'est qu'ils sortent tous les deux d'une période très compliquée, faite de blessures qui les a empêchés de jouer à leur meilleur niveau, chacun de leur côté. Ils ne savent même pas s'ils pourront disputer le tournoi. Alors, quand Federer soulève la coupe et prononce son discours du vainqueur, son émotion est palpable. Il se met même à pleurer, ce qui n'est pas rare pour lui non plus, connu pour être émotif pendant les cérémonies de remise de trophées. Mais le plus touchant dans ce moment-là, je pense, reste cette phrase prononcée à l'égard de Nadal, que je pense sincère d'ailleurs. « Le tennis est un sport cruel », affirme Federer. « Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Je crois que ni lui ni moi ne pensions pouvoir nous tenir ici ce soir. » Alors s'il y avait la possibilité d'une égalité dans le jeu, eh bien je crois que je serais heureux de la partager avec Rafa. Le match historique de 2008 aura donc marqué le début d'une nouvelle ère. Elle aura aussi marqué le début d'une longue compréhension. La compréhension que les deux hommes ont besoin l'un de l'autre. Et, ose-je le dire, qu'ils s'aiment un peu. Je vous disais en début d'émission que j'avais toujours été un peu amoureuse de Federer, mais en fait non, je crois que je me ravise et que je suis un peu amoureuse de leur relation à tous les deux. Voilà, la radio, c'est fait pour partager.
Secret livré.
They'll never make
Sur ce, je conclus cet épisode de Secret Livré. Je vous dis à très vite sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM. On se retrouve en effet le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. La bise.